Compte tenu de la docte assemblée qui se réunit pour ses études bibliques, à savoir nombreux conseillers presbytéraux, on voit qu'ici les presbytéroïdes ne vont pas être vraiment à l'honneur. Donc éviter le texte grec, des fois, ça peut être fraternel. Alors, ce texte, c'est donc dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Et les versets 1 à 12 qui vont nous permettre de faire un pas de plus pour notre étude du thème du salut, le salut tel que les textes bibliques nous l'exposent. La fois dernière, nous avons eu l'occasion de nous intéresser à la question d'un salut universel. Et c'est vrai que finalement, l'une des grandes questions, c'est de savoir qui est sauvé, qui ne l'est pas, qui est inclus dans la perspective du salut, qui pourrait en être exclu. Et ici, finalement, on continue encore à répondre à cette question, mais non plus du point de vue des hommes, c'est-à-dire non plus en se demandant y a-t-il une catégorie d'êtres humains qui serait plus élue que d'autres, au sens de plus sélectionné même, mais si en fait on va s'interroger du côté de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que le Christ, finalement, est un facteur déterminant, je dirais même discriminant, en matière de salut? C'est un peu le sens de notre rencontre. Christ seul sauveur, c'est souvent ce que l'on entend. Et du coup, ça signifie que l'on peut se poser la question, et ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Christ? Est-ce que ceux qui ne parlent pas du Christ sont du coup exclus du salut? Voilà. C'est un peu, vous voyez, cette thématique que l'on aborde aujourd'hui.
Est-ce que vous n'auriez pas un texte un petit peu plus gros? Parce que là, franchement, mes yeux, ils y arrivent
J'ai vu
pas.
qu'il y avait une traduction œcuménique dans le placard qui doit avoir des caractères plus grands. Donc, ce chapitre 4 du livre des Actes, le livre des Actes, je vous le rappelle, c'est écrit par Luc. Vous savez pourquoi on sait que c'est Luc qui a écrit le livre des Actes? C'est toujours intéressant de le savoir, même si c'est qu'un point de détail. C'est parce que le livre des Actes des apôtres commence de la même manière que l'évangile selon Luc. Ça commence par une adresse à Théophile. Hein? Actes chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc ça, c'est le livre des Actes des Apôtres. Et si l'on prend l'évangile selon Luc au chapitre 1, verset 1, voici ce qu'on y lit. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui ont été dès le commencement les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Donc vous voyez, Luc écrit noir sur blanc que lui-même n'est pas un témoin oculaire, mais qu'il rassemble des témoignages de gens qui ont vu. Ça montre bien que l'évangile selon Luc est en quelque sorte un écrit de seconde main. Et ça pose aucun problème pour que ça soit reconnu en tant qu'évangile. Je continue. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile! Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà l'argument scripturaire qui nous permet de pouvoir dire les Actes des apôtres ont été composés par le même auteur que l'évangile que l'on attribue à Luc. Théophile, c'est un nom qui on dit beaucoup, ça veut dire celui qui aime Dieu, voire celui que Dieu aime. C'est toujours difficile de savoir si c'est Dieu qui aime ou si c'est Dieu qui est aimé. Bon, toujours est-il qu'il y ait question de l'amour de Dieu. Voilà, c'est suffisamment ambigu pour, en tous les cas, voir que c'est de nous dont il s'agit. Théophile, c'est nous, bien entendu. Bien. Bonjour. Et donc, dans ce chapitre 4, finalement, le verset qui a retenu mon attention et qui explique la présence de ce texte dans notre parcours sur le salut, c'est le dernier verset que nous allons lire. Je vous le donne d'ores et déjà pour que vous l'ayez en tête. Le salut ne se trouve en aucun autre que Jésus-Christ de Nazareth, lit-on au verset 10. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. La tonalité étant donnée, je vous propose que nous lisions ce début du chapitre 4. Voilà, si quelqu'un veut bien lire les 12 versets, dans la traduction qu'il souhaite. Oui, bien sûr.
Alors, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les prêtres, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu le discours crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des chefs des prêtres. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre que vous avez rejetée en bâtissant et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. »
Voilà, merci beaucoup. Je propose de commencer un peu par un tour de réaction sur ce texte et finalement l'enseignement qu'il nous délivre comme cela de façon assez immédiate. Comment vous vous positionnez par rapport à cette formulation « Il n'y a aucun autre nom par lequel nous dussions être sauvés ». Bon, alors, il y a un pas d'accord. Et de deux, et de trois.
C'est le nom, oui.
Ça fait qu'une minorité pour l'instant. Tel que s'exprimer comme ça, d'accord. Ok.
Bon, la question que je me pose, c'est la définition des notions qui beaucoup est très abstraite, c'est celle du salut. Alors, qu'est-ce que c'est que le salut? Est-ce que faut-il le concevoir comme quelque chose qui nous est donné pendant la vie terrestre? Ou est-ce quelque chose qui nous attend dans une autre vie? Voilà.
Alors, bon, donc j'arrête peut-être là le tour de table parce que je pense qu'à force, tout le monde va se conformer à la minorité qui devient majoritaire. Ce qui est d'ailleurs ravissant parce que je pense qu'effectivement, vous avez raison de ne pas prendre les choses au pied de la lettre comme ça. Mais, et on va répondre aussi à votre question parce que le texte répond à votre question très précisément sur le temps du salut, en fait, notamment. Vous voyez, il y a comme cela un sentiment qui vous anime, qui est de dire le texte biblique tel qu'il est formulé ne correspond pas, disons, à mes convictions. Il y a une contradiction entre ce que je crois et ce que le texte biblique exprime. Eh bien ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime, en fait. C'était tout le sens de cette prédication sur la méthode en matière de théologie. C'est-à-dire qu'on ne prend pas pour argent comptant ce qui est exprimé dans la lettre du texte. On peut la soumettre à la critique de sa conscience, de son expérience, et aussi d'autres sciences, d'autres discours, d'autres convictions. Et je présume que si vous dites que telles que les choses sont dites là, ça ne vous convient pas, sans vous demander d'argumenter, c'est parce que vous avez d'autres éléments qui vous font dire « Non, le salut que Dieu nous propose est d'un autre ordre. » Et il n'est pas cantonné simplement à ceux qui reconnaîtraient le nom de Jésus, pour le dire vite. Alors, cela me fait dire qu'on va avoir l'occasion de parcourir ce texte en apportant un peu des éléments de méthodologie pour voir qu'est-ce qu'on fait de ces textes qui finalement disent le contraire de ce qu'on pense ou de ce qu'on croit. Parce que c'est pas le tout de noter qu'il y a un désaccord, encore faut-il en faire quelque chose. Bien. Parce qu'après tout, sinon, on peut très bien se dispenser de la Bible et on la laisse aux orties. Et puis, on fait que de la méthode inductive, c'est-à-dire, eh bien, on considère que la religion, c'est la somme de ce que l'on a sur le cœur. Mais en régime protestant, la Bible fait quand même autorité. Donc cette autorité, il faut en faire quelque chose. Et un texte qui va à l'encontre de ce qu'on croit, eh bien, il faut le respecter et le faire parler. Commençons peut-être par répondre à la question du temps du salut, puisque c'est la première question que ce texte assume finalement. Est-ce que le salut c'est pour aujourd'hui, ou est-ce que c'est renvoyé à plus tard, à un au-delà de la mort, à un au-delà de l'histoire, etc. Le texte y répond parce que Pierre et Jean répondent précisément à cette question lorsqu'ils sont soumis aux questions du Sanhédrin et des conseillers presbytéraux de l'époque. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle Pierre et Jean sont convoqués et sont mis en prison ? Qu'ont-ils fait pour mériter cela ? Ils ont guéri quelqu'un. Alors, c'est dans le chapitre précédent que l'événement est raconté. C'est Pierre et Jean qui montent au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y a un homme boiteux de naissance qui est placé tout près de la porte. En voyant Pierre et Jean, il leur demande de l'aumône, donc de l'argent. Il y a Pierre qui le regarde dans les yeux et qui lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il le prend par la main droite, il le fait se lever et à l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Donc vous voyez la question là ? Ce n'est pas la question de est-ce que c'est fait pendant le sabbat, est-ce que c'est fait hors du sabbat. C'est qu'est-ce qui a permis aux disciples de réaliser ce miracle. C'est bien tout le sens de l'accusation qui est formulée dans le chapitre 4 cette fois. C'est le verset 7. « Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Ce qui pose problème là, ce n'est pas la violation du sabbat, c'est l'autorité qui leur a permis de faire cela. Et donc, ils vont dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Voilà, la polémique, elle est justement sur l'action de ce Jésus. Que pourrait-on dire de la guérison de cet homme-là par rapport au salut ? Hein, puisque les disciples, Pierre et Jean, les apôtres, disent que Jésus est celui qui sauve. Et sous-entendu, donc, cet homme a été sauvé. Ça y est, c'est fait. Hein, ce n'est pas plus tard qu'il sera sauvé, c'est il a été sauvé dans le présent de son existence. Et du coup, sauvé, ça signifie quoi là ? En quoi est-ce qu'il a été sauvé, cet homme-là ?
Il a recouvré la santé, il a été guéri.
Il ne l'avait pas demandé ça, en tout cas.
Non, mais on lui a dit Jésus-Christ. Or, peut-être qu'il n'avait jamais entendu parler de Jésus-Christ.
C'est possible. Mais essayons de voir...
Alors, il pouvait se demander qui c'était.
Oui. Mais en fait, le texte ne dit pas qu'il s'interroge sur l'identité de ce Jésus-Christ. Le texte nous dit que, aussitôt, Pierre le redresse... et que ce redressement est efficace, et qu'ensuite, ils vont au temple. Eh bien, comme souvent dans les récits de miracles sur des questions physiologiques, en fait, c'est vrai que c'est un arrière-plan culturel que nous n'avons plus forcément en tête. Il faut bien comprendre que quelqu'un qui est boiteux, aveugle, estropié, handicapé d'une manière ou d'une autre, est une personne impure. Et cette impureté le prive de l'accès au temple. C'est-à-dire que cette personne ne pouvait pas faire mieux que d'aller à la porte du temple. Elle ne pouvait pas aller au-delà. Elle est interdite au sens strict du terme, parce que impure. Elle ne peut même pas aller sur le parvis des femmes. Alors, c'est pour vous dire à quel point sa condition est misérable. Et donc, l'action que Jésus a de son vivant, ou que les apôtres ici ont, c'est en fait de permettre aux personnes de pouvoir réintégrer le temple et donc réintégrer la société des hommes. c'est vraiment mettre fin à l'exclusion socio-religieuse de ces personnes. Spirituelle, mais plus que spirituelle. Enfin, c'est vrai que c'est spirituel, par exemple, quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », parce que là, c'est le lien direct à Dieu qui est rétabli, qui est restauré. Jésus qui ouvre les yeux de cette personne sur le fait que Dieu reste tout amour pour lui. Ici, c'est plutôt sur le lien religieux, parce que c'est dans le lieu de la religiosité que la personne peut à nouveau se rendre. On peut très bien avoir une spiritualité indépendamment de la fréquentation du temple de Jérusalem. Même du temple de l'oratoire, peut-être, après tout. Donc, que font Pierre et Jean ? C'est de permettre à cet homme de reprendre le chemin du temple, le chemin de la communauté des hommes. Et du coup, de quoi cette personne est-elle sauvée ? Eh bien, il me semble qu'elle est sauvée de l'absence de sens. C'est une catégorie pas forcément très religieuse, mais c'est une catégorie très existentielle. En fait, cette personne n'avait plus de sens pour sa vie, en dehors de faire l'aumône, ce qui est quand même un sens très limité. Elle ne pouvait plus faire autre chose que d'être posée là, quelque part, et d'attendre que les choses se passent. Et ce texte, me semble-t-il, dit que le salut consiste à pouvoir remettre les gens en chemin et leur permettre de retrouver du sens. Parce que quand on est sur un chemin, ben forcément, il y a le sens du chemin. Hein, c'est une métaphore, tout cela. Et donc, le miracle, là, tel qu'il est dit dans ce passage, n'insiste pas tant sur le caractère physiologique que sur le caractère socio-religieux. La personne est réintégrée dans sa dignité d'homme, au regard des hommes et au regard du symbolisme religieux, disons.
Dans toutes les guérisons de Jésus, en fait, il n'est pas forcément... Enfin, il est d'abord au niveau le plus bas, c'est une guérison physique, mais il y a aussi, comme conséquence, une guérison de foi.
Moi, je pense qu'elle est d'abord là, la guérison. Parce qu'il y a des guérisons qui, à mon avis, ne sont pas du tout physiques. Je prends le cas des lépreux, par exemple. Il y a un moment donné, Jésus est 10 lépreux. 10 lépreux qui vivent justement en dehors du village, parce que bon, la lèpre est en plus contagieuse, donc ils sont en quarantaine, etc. Et au fond, si on compare ce que fait Jésus par rapport aux prescriptions du Lévitique concernant les lépreux, on voit que Jésus en est déjà au point où les lépreux sont guéris. Ils étaient guéris, mais personne ne pouvait s'en rendre compte parce que plus personne ne les fréquentait. Et eux-mêmes étaient finalement enfermés dans cette identité de lépreux. Et donc, l'originalité de Jésus, en quoi Jésus sauve ces personnes ? Eh bien, c'est justement en portant un véritable regard sur eux et en voyant leur véritable identité. Non plus la rumeur ou la catégorie dans laquelle on les a enfermés définitivement, mais en fait, quand il leur dit « allez vous faire voir au prêtre », ça veut dire qu'ils sont déjà guéris. Et c'est sur ce chemin qu'ils réalisent « ah mais si on doit aller se rendre auprès du prêtre, c'est qu'en fait on est déjà guéri ». Et c'est la raison pour laquelle le texte dit « ils se rendirent compte sur le chemin qu'ils étaient guéris ». Alors tous les lecteurs disent « ah ben c'est la parole de Jésus qui les guérit », etc. C'est vrai, mais comme vous le dites, au niveau de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ouvrent un nouveau regard sur leur propre condition. Mais ce n'est pas au niveau physiologique que les choses se font.
Mais dans la guérison, justement, c'est le regard, puisque Pierre et Jean regardent cet homme et il dit « regarde-nous ». Et Pierre lui dit « ce que j'ai, je te le donne ». Qu'est-ce qu'il lui donne ? Il lui donne un regard, il lui donne son amour. Il lui dit « je ne te donne pas d'argent, etc. Je te donne ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'amour pour toi ».
Je crois qu'il y a un texte de Vincent Hubach dans Évangile Liberté. Il a fait un dossier il n'y a pas très longtemps sur la diaconie. Et il parle justement des personnes qui deviennent invisibles, hein, des personnes qui sont extrêmement pauvres et qui deviennent invisibles. Et c'est exactement cela que vous dites. François.
Je veux dire que ce n'est pas le premier texte du Nouveau Testament où on est confronté aux pharisiens qui emprisonnent littéralement les gens dans une seule chose, le respect des dômes. Mmh. Et on est impur à partir du moment où on ne respecte pas les dômes. Et moi, ça me pose la question de la foi. Qu'est-ce que c'était la foi à ce moment-là en Israël. Parce que chaque fois qu'il y a une manifestation de foi comme celle qu'on vient de lire, à laquelle Pierre et Jean appellent ça, aussitôt les pharisiens disent non, c'est pas ça. Il faut respecter les dogmes. Alors, je veux dire qu'on n'est plus du tout dans le même état d'esprit aujourd'hui, enfin, depuis longtemps, pour juger. On ne peut que juger, c'est l'attitude des pharisiens. On peut que les condamner. Parce que nous sommes. C'est tout le contraire dans lequel nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à vivre dans la foi, dans la liberté, etc. Et non pas dans le respect des dogmes stricts. Attention, si vous ne croyez pas.
Pas dans l'obéissance aveugle. Alors, il faut quand même.
Je sais pas, moi je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous, parce qu'on est quand même dans une société où les apparences. Moi je crois qu'il y a la liberté et il y a l'impression de liberté. On est quand même dans une société où vous avez une espèce de force, ce que j'appelle du politiquement correct, qui est extrêmement pesante, où il est quand même très très difficile quelquefois de se sortir de certaines choses. On a l'impression qu'on est libre parce que, bon, c'est qu'une impression.
Oui, des fois, c'est une dogmatique insidieuse contre une dogmatique explicite officielle.
On est dans quelque chose de totalement autre, mais il faut voir la pression des médias. Bon, ce soir, par exemple, à la télévision, moi je ne sais pas si tous ceux qui soient chrétiens ou pas chrétiens, mais qui croient à certains types de valeurs, on ne devrait quand même pas s'insurger contre ce qui va se passer ce soir à la télévision, où on met en scène une expérience psychologique d'un célèbre psychologue américain, où on montre ces gens qui envoient des décharges électriques. On est dans quelle société pour ne pas être tous devant la télévision pour s'insurger contre ça?
Il faut justement pas regarder, sinon on devient complice en fait.
Il faut pas regarder.
Voilà. Si seulement vous étiez venu au culte dimanche dernier à l'oratoire du Louvre. Alors tout de même, je voudrais non pas forcer.
Je sais pas, est-ce que les. Sans être chrétien, moi je sais pas, il me semble que dans toutes les églises déjà, parce qu'on prend certaines valeurs. Il aurait dû avoir des pétitions contre s'insurger contre ça.
On vit où?
Mais l'obéissance aux ordres.
Non, mais même toujours des opinions.
Alors, ça serait bien qu'on puisse écouter aussi. Ouais. Allez-y.
Quelqu'un qui semble avoir une autorité et qui dit à quelqu'un fait cela, dire non, c'est pas si simple, ça ne va pas de soi. Et il y a des gens qui continuent en pensant que l'autorité a plus d'un tour dans son sac et a de bonnes raisons de donner cet ordre-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on a des enfants, par exemple, on ne peut même pas les élever fondamentalement dans l'opposition, mais... on est quand même amené à leur dire cherchez les enjeux. Quand on vous dit faites ceci, cherchez l'enjeu. Pourquoi dit-on ça?
Voilà. C'est exactement la question en fait qui est posée aux apôtres, c'est au nom de quoi faites-vous cela? Alors ça c'est en termes d'origine, mais c'est aussi en termes de perspective, c'est-à-dire finalement quelles en sont les conséquences. Et finalement ce que disent les disciples, ça va être de reprendre un peu l'argumentaire de Jésus, c'est on reconnaît l'arbre à ses fruits. Nous sommes porteurs de vie. Il y a donc fort à parier que nous soyons nous-mêmes les apôtres du Dieu de la vie. Donc il y a un peu cela. Je voudrais quand même, si ce n'est sauver l'honneur des pharisiens, du moins faire en sorte qu'on ne les enfonce pas inutilement, parce qu'ici ce sont les sadducéens qui sont en cause, et pas les pharisiens. C'est-à-dire que c'est le temple. Les sadducéens, c'est le courant du judaïsme qui a la charge du temple, les grands prêtres, etc. Les pharisiens, eux, sont plutôt en charge de la loi et de la tradition orale qu'il y a autour. Ce sont les docteurs, en fait. Ici, ce sont les prêtres, c'est la classe sacerdotale, et qui, justement, interroge les disciples, enfin les apôtres, sur le fait qu'ils font venir au sein du temple quelqu'un qui, en principe, n'y avait pas sa place. Donc c'est encore une autre autorité qui serait plus l'autorité du pouvoir que l'autorité universitaire, disons, vous voyez. Bon, comme ça, pour faire droit au texte, c'est pas du tout par esprit de contradiction, c'est pas du tout mon genre, ça. Et alors, ce que l'on, effectivement, ce que l'on peut dire aussi, c'est que sur la question du caractère physiologique du miracle, que se passe-t-il? On voit qu'en fait, la personne, elle est levée et qu'en fait, ses chevilles tiennent, contrairement à l'idée qu'il s'en faisait. Mais combien de fois, en fait, n'agissons-nous pas parce qu'on estime qu'on est incapable de faire? Bon, ben, c'est exactement ça, en fait. C'est que le regard d'amour bienveillant dont parlait Philippe, c'est justement celui qui autorise la personne, qui lui fait comprendre que, bien sûr, qu'elle en est capable. Quand on demande, par exemple, à quelqu'un de rendre un service, qu'il dit « Oh non, j'en suis tout à fait incapable », si je te le demande, c'est parce que j'estime bien que tu en es capable. Je ne vais pas demander à un incapable de rendre un service dont j'ai besoin. Voilà. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ça l'autorité, c'est autoriser. L'autorité parentale, c'est le fait d'autoriser les enfants à grandir, à augurer, c'est même augmenter, croître. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une insistance, à votre avis, sur la question du nom de Jésus? Pourquoi il y a cette phrase qui, aujourd'hui encore, est souvent dite au nom de Jésus? On prie même au nom de Jésus, et on agit au nom de Jésus. Mais on n'agirait pas au nom de quelqu'un d'autre. A priori. Mais agir au nom de Jésus, ça a du sens.
Oui, parce que Jésus a envoyé le Saint-Esprit.
Ben dans ce cas-là, on agirait en vertu du Saint-Esprit.
Oui, mais ça, c'est pareil.
Et puis vous... et dire que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, c'est peut-être un poil exagéré. Est-ce que Jésus n'est pas plutôt celui qui annonce que le Saint-Esprit va venir sur les disciples? Oui. C'est ça, il annonce que le Saint-Esprit ira sur les disciples.
C'est Dieu.
C'est Dieu qui a envoyé le
Saint-Esprit. Et encore, distinguer Dieu du Saint-Esprit, vous voyez, déjà, ça peut être un peu limite-limite. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de Trinité, là, il y a des choses qui commencent à devenir intéressantes. En trinitologie, le nom de Jésus, c'est tout simple.
Son message, peut-être.
Beaucoup plus simple que ça. Beaucoup plus simple que ça. Et quand on prononce ce nom, on dit quoi? Non, non. Quand on dit Jésus, on dit quoi?
Jésus le Christ.
Non. Yeshua, on dit Dieu sauve. Dieu sauve. Eh ouais, c'est... Non, en fait, c'est tout simple, ça, c'est écrit dans le texte finalement. Agir au nom de Jésus, c'est agir au nom du Dieu qui sauve. Et donc, c'est bien ça la motivation. C'est bien ça la compréhension que les apôtres ont de leur mission. C'est agir au nom du Dieu qui sauve.
Dieu sauve par son Saint-Esprit, je reviens à ce que je disais.
Ou par son Christ.
Oui, mais d'accord, mais ça forme quand même un ensemble.
Mais là, Pierre est rempli du Saint-Esprit.
Oui,
c'est ce qui
pour
parler. Parler.
C'est ce qui lui permet de parler.
Parce que les autres disent qu'il n'a aucune instruction.
Dans les textes bibliques, l'Esprit, finalement, a deux fonctions principales. On avait vu ça un peu dans le péché contre l'Esprit, d'ailleurs. La première fonction, c'est celle que l'on voit dans le livre de la Genèse. Hein. C'est l'esprit qui rentre dans les narines de l'homme. C'est au fond ce qui lui donne de la teneur et sa capacité à se tenir devant Dieu. C'est le principe d'animation, en quelque sorte. La rouare ou le pneuma. Les pneumatiques, c'est quand on est bien gonflé. L'autre chose, c'est effectivement le fait de pouvoir se faire comprendre d'autrui. Et c'est l'exemple même de la Pentecôte. Du moment où l'esprit est sur les disciples, alors l'étonnement des étrangers, c'est qu'ils peuvent comprendre ce que les disciples leur disent. Autrement dit, l'esprit, c'est cette capacité que Dieu nous donne de pouvoir entrer en communication avec d'autres. Et c'est pour ça que souvent, dans notre prière, la demande à Dieu d'ouvrir notre esprit à son esprit. C'est le fait d'être dans une capacité de communiquer et d'échanger. Voilà. Donc, voilà un peu pour la mise en place de ce texte qui est donc fondé sur une polémique. La polémique entre Pierre, Jean d'une part et les Sadducéens d'autre part. Et maintenant, je vous propose qu'on s'attaque à ce verset 12 pour voir ce qu'on en fait. Parce que finalement, on pourrait résumer la question... ainsi, peut-on se réclamer de l'Évangile et se prétendre chrétien sans croire qu'en dehors de Jésus, il n'y a ni salut ni vérité. Est-ce qu'on est encore chrétien lorsque finalement on considère qu'en dehors de Jésus-Christ, il puisse y avoir salut et vérité? Et peut-on envisager une foi en Jésus qui admette qu'il n'est pas le seul chemin pour rencontrer et connaître Dieu? Autrement dit, peut-on admettre en tant que chrétien que Jésus ne soit pas le seul Christ? La question peut se résumer en ces termes. Deux autres phrases problématiques en plus de celle-ci. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 27, « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Finalement, le Fils qui serait la voie de passage obligée. Et puis, il y a bien sûr dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Et vous voyez, la question que posent ces textes, c'est « Y a-t-il un monopole de Jésus ?» Voilà. Alors, c'est à partir de maintenant qu'on va faire un peu de théologie, en fait. Hein. Mais soyez pas tristes, hein. Ça va être bien. Je vais vous faire un schéma. Ça va être bien. On a finalement, par rapport à la question de Jésus en tant que Christ, trois grandes possibilités. Imaginons que nous ayons un Christ bien défini, en l'occurrence la personne de Jésus. Ce qu'on va appeler un christocentrisme exclusif. Christocentrisme, c'est-à-dire que tout passe par le Christ, exclusif, ça veut dire que tout ce qui dans notre foi, dans notre relation à Dieu, sort du cadre Christ, est hérétique en quelque sorte. Mais hérétique au sens où ça ne relève plus de la foi chrétienne. C'est même pas un choix parmi d'autres, ça veut dire que ce qui est en dehors ne participe pas au salut voulu par Dieu. Le christocentrisme exclusif, c'est ça. Donc, ça signifie très clairement que l'islam, par exemple, qui ne reconnaît pas en Jésus le Christ, le judaïsme, qui ne reconnaît pas en Jésus le Christ, plus le judaïsme que l'islam d'ailleurs, eh bien, n'a pas part au salut. Parce que c'est carrément au-delà. Les juifs sont ici, les musulmans sont peut-être là comme ça, voilà. Donc, à partir du moment où c'est dehors, c'est exclu. Exclusif comme exclu. Il peut ensuite y avoir... alors ça, par exemple, cette version des choses, c'est la version Karl Barth. Je vous cite Karl Barth. « La théologie ne peut penser et parler qu'en fixant ses regards sur Jésus-Christ. » La théologie ne peut penser et parler qu'en fixant ses regards sur Jésus-Christ parce que, finalement, le Christ est le seul qui soit capable de faire alliance entre Dieu et les hommes. C'est le point de tangente entre la droite Dieu et le cercle homme, si vous voulez. Il y a un point tangent, c'est le Christ. Donc, si on est en dehors, il n'y a plus de contact.
Peut-être, il pensait peut-être comme ça parce que, à cause de l'environnement social de l'époque.
C'est très possible. Et ça, on y reviendra. Parce que peut-être que les apôtres aussi pensaient comme cela à cause de l'environnement de l'époque. On ne va pas pouvoir faire abstraction de cet environnement. L'autre façon de voir les choses, c'est l'inclusif. Alors, le christocentrisme inclusif, c'est par exemple... la perception de Jean Danielou, de Henri de Lubac, de Karl Rahner. C'est de dire que les religions sont potentiellement porteuses de la révélation, même si elles demeurent provisoires et imparfaites. Ça veut dire que il peut y avoir des religions, prenons l'hindouisme, qui seraient ici. Donc il y a une partie qui effectivement fait droit à une révélation digne du christianisme, mais aussi tout un pan qui, là, est en dehors et qui, finalement, fait sortir du chemin désigné par le Christ et donc du salut envisagé par Dieu. Donc, c'est inclusif au sens où il y a des... Voilà, on ne va pas rejeter entièrement la religion. Il y a des aspects. Partiellement, il y a de la vérité. C'est un peu la position du cardinal Joseph Ratzinger à l'endroit du protestantisme, notamment. En disant, il y a des parcelles de vérité dans l'expression protestante de la foi chrétienne. Mais comme ce n'est pas entièrement vrai, on ne peut pas considérer que l'Église, enfin, que le protestantisme soit Église, justement, parce que qui dit Église dit participation totale au corps du Christ. Donc, du point de vue de Ratzinger, christocentrisme exclusif, si vous n'épousez pas totalement le corps du Christ, alors vous êtes un peu en dehors. Et puis, il y a une troisième façon d'envisager la relation au Christ. Alors cette fois, ce n'est plus un christocentrisme, c'est un théocentrisme. Théocentrisme. Et ça va être relativiste. Alors là, je peux vous dire que Joseph Ratzinger, ça n'allait pas à ses oreilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est lui qui prêche devant le conclave réuni juste après la mort de Jean-Paul II. Et sa prédication, c'est de dire « halte au relativisme ». Parce que pour lui, il n'y a rien de pire que le relativisme. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. Le théocentrisme relativiste dit que, au fond, ce n'est plus le Christ qui est au centre, c'est Dieu, et il y a finalement une contestation du fait que la foi chrétienne soit entièrement médiatisée par Jésus, Christ, et que Jésus-Christ soit le tout du plan de Dieu. Je vous le dis avec une phrase de Jacques Dupuis. Croire en Jésus-Christ, c'est croire que je suis sauvé par son intermédiaire et non qu'il est le sauveur du monde. Jésus est la voie pour les chrétiens, mais d'autres voies font qu'il n'est pas nécessaire pour d'autres. Et c'est ce que dira aussi un théologien américain, John Hick, qui a une lecture métaphorique de l'incarnation, et j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Au fond, l'idée de ce théocentrisme relativiste, c'est de dire que si Dieu s'incarne en Jésus, c'est parce que Jésus incarne la volonté de Dieu et devient une sorte de figure emblématique de son amour pour l'humanité. C'est-à-dire que Jésus est l'incarnation de Dieu en ce qu'il montre comment l'amour de Dieu peut s'incarner humainement parlant. Et alors, la conclusion que l'on peut en tirer, c'est que du coup, l'incarnation de Dieu en Jésus ne repose plus sur l'essence de Jésus, mais sur l'existence, et je vais aussitôt m'empresser de vous expliquer cela. Que vous ne rouliez pas trop les yeux. Au fond, pour caricaturer, on pourrait dire il y a un conflit au sein du christianisme entre deux façons de définir ce qu'est le Christ. Il y a une manière de dire le Christ qui va être de dire qu'il y a une identité totale entre la fonction divine et la personne humaine. C'est-à-dire que Jésus est Christ en soi, il est Christ dans son essence et dans sa nature. C'est-à-dire que c'est indissociable. Il est, c'est son être. Pour prendre le gros mot, c'est ontologique. Voilà, il y a une sorte de fusion entre les deux. Il y a en tous les cas identité. Et l'autre, c'est de dire que le Christ, c'est pas une personne, c'est plutôt une fonction. Et que du coup, Jésus est Christ, non pas en lui-même, mais dans ce qu'il fait et dans ce qu'il réalise. Autrement dit, il n'est pas Christ en soi, il est Christ pour les autres. Et donc, ça signifie qu'il n'y a pas une identité entre Jésus de Nazareth et le Christ. Alors, cela s'appuie sur différentes données bibliques. Il y a d'abord le fait qu'on parle de Christ avant Jésus. Le premier Christ, c'est Saül. Le Christ, c'est celui qui reçoit l'onction de Dieu, de la part de Dieu. C'est un homme qui reçoit de l'huile. Donc, les rois d'Israël sont Messie, ils sont Christ. Et puis ensuite, Jésus, soit effectivement, par rapport à la première perspective, on se dit, bah, il est Christ quasiment par sa conception. C'est-à-dire que, quelque sorte, il serait physiquement divin aussi. Soit c'est, comme le disait Jacques Dupuis, c'est dans le fait qu'il incarne comme personne le plan de Dieu qu'il est véritablement Christ. Il est Christ en ce sens qu'il accomplit ce que Dieu espère de l'homme. Alors, oui, il y a une...
Accomplit totalement. Parce que, oui. Au fond, ça pourrait s'appliquer à...
Hein,
si on essaye d'appliquer ce que Dieu veut de nous.
Mais c'est pas partiel, c'est total, oui.
On sera pas.
Non, nous on reste pécheurs quand même.
On sera pas Christ pour autant.
Mais oui et non. C'est que il me semble que l'on peut être Christ pour les autres dans des événements, ce qu'on appelle un kairos. C'est-à-dire qu'à un moment donné de sa vie, on peut être véritablement Christ pour quelqu'un en opérant ces miracles qui sont réintégrer quelqu'un dans une communauté humaine, redonner du sens à sa vie, le redresser, le remettre sur pattes, etc. Et là, on est Christ ponctuellement, mais on l'est quand même. La qualité de ce Jésus de Nazareth que l'on confesse, c'est qu'effectivement, il le fut pas simplement ponctuellement.
Il y a fusion entre les deux. Sur le plan Jésus sur le plan humain et Jésus sur le plan divin, parce que la crucifixion, c'est l'homme qui meurt, tandis que la Sainte Cène, c'est la passation des pouvoirs divins aux disciples, donc à nous. C'est une question de responsabilité et de pouvoir. Parce que dès oui. qu'on a une responsabilité, on a un pouvoir. Et
c'est-à-dire, dès qu'on a une responsabilité, on a surtout une responsabilité, mais oui, aussi un peu.
Mais je
en plus, enfin, on peut espérer que la responsabilité soit plus en termes de service qu'en termes de pouvoir. Mais vous avez un peu raison sur cette passation, si ce n'est qu'il ne faut pas perdre de vue à quel moment se fait cette passation de pouvoir, en quelque sorte. C'est que le repas que fait Jésus avec ses disciples, c'est en fait, le repas d'intronisation du grand prêtre. On trouve ça dans le livre des Jubilés qu'on trouve dans les écrits intertestamentaires de la Pléiade, ou Testament de Lévi, non, c'est dans le Testament de Lévi, dans les écrits intertestamentaires. On voit qu'en fait, le repas que fait Jésus, c'est le repas d'intronisation du grand prêtre. Ce n'est pas le repas de l'Exode, hein. Ce n'est pas le repas de la Pâque. C'est le repas d'intronisation du grand prêtre, sous-entendu, eh bien, le sacerdoce universel se met vraiment en place à ce moment-là. Et au fond, Jésus, avec ce repas, fait un acte de contestation à l'endroit des Sadducéens, un acte de contestation vis-à-vis de l'autorité du grand prêtre, qui va régler son compte à Jésus un peu plus tard. Et faisant participer ses disciples, il les rend effectivement responsables avec lui de cette relation immédiate avec Dieu. Il les rend capables là aussi. Il leur dit, vous aussi, vous êtes grand prêtre, et donc nous aussi. Hein ? On le dit pas assez, peut-être qu'il faudra que j'articule ma prédication là-dessus pour le jeudi saint au foyer de l'âme, mais le repas de la scène, c'est certes une histoire de communion, mais c'est d'abord une histoire de sacerdoce universel. On est grand prêtre, on est en accès direct avec Dieu. Donc c'est bien l'histoire de la communion, mais il faut pas perdre de vue que c'est un énorme pouvoir de contestation justement de la domination de la caste sacerdotale.
C'est pour ça je pense que le royaume, c'est tous les jours, nous qui faisons.
Ouais. Et le salut, ça se fait aujourd'hui aussi, déjà, même si ce n'est pas encore complètement. Ouais. Alors, maintenant, c'est juste une sorte de typologie. Je vous ai dressé un portrait robot des différentes compréhensions du Christ. Mais comment on fait pour aller dans le sens de nos convictions, de notre intime conviction, tout en faisant quelque chose de ce texte? Alors, je vais m'appuyer essentiellement sur le travail d'André Gounel, qui réfléchit un peu à une méthode pour aborder ces textes difficiles au sens où ils ont l'air d'aller à l'encontre de ce qui, pour nous, est un article de foi. Alors, la première chose qu'il dit, André Gounel, c'est quelque chose en rapport avec le fondamentalisme persistant, mais au sens positif du terme. Le fondamentalisme, ça peut des fois être précieux. Ou un littéralisme, plutôt. Peut-être que ça serait plutôt le littéralisme. C'est au fond de dire, il faut être honnête envers les textes bibliques et pas les tordre dans le sens que l'on veut. La première chose à faire, c'est de respecter le texte biblique et de ne pas lui faire dire ce que l'on veut. Autrement dit, vous voyez, c'est ça qui va un peu contre la méthode inductive. La religion, ce n'est pas simplement ce qui nous fait plaisir. Mais en même temps, il dit que il faut quand même veiller à lire les textes bibliques comme l'opinion de personnes qui ont écrit ces textes. Et il ne faut pas identifier texte biblique à parole de Dieu, ce qui pour nous fait partie du credo. La Bible telle qu'elle est écrite, ce livre, ce n'est pas la parole de Dieu immédiatement. Il faut la travailler, l'interpréter, la faire vibrer, la discuter à plusieurs pour qu'une parole de Dieu puisse se faire entendre. La lettre, en elle-même, n'est pas parole de Dieu dans notre vision des choses. Et donc, la véritable fidélité évangélique peut assumer le fait qu'il y ait un désaccord entre ce que nous croyons, pensons, et ce qu'un texte biblique peut dire. Parce que ça peut être simplement un désaccord entre notre conviction et la conviction d'un homme, d'un autre homme, ou d'une communauté d'hommes. Donc vous voyez, ce n'est pas fâcheux d'être en contradiction avec un texte biblique. C'est tout à fait légitime. Et Paul Tillich écrit que « croire ne signifie pas accepter tout ce qui est écrit dans la Bible. Croire veut dire que ce dont elle parle a une importance essentielle et décisive pour ma vie. » Donc la Bible a une véritable autorité, non pas dans le fait que tout ce qu'elle dit serait exact, sur le plan historique notamment, mais elle a autorité en ce qu'elle me concerne de façon ultime. Elle me préoccupe de façon ultime. Alors, ce premier point de méthode, c'est bien, ça nous soulage un peu. Mais d'un côté, ça ne résout pas notre problème parce qu'on ne peut pas non plus se contenter d'enregistrer des différends. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, bah voilà, la Bible ne pense pas comme moi, pour avoir trouvé une solution à cet écart, disons. Vous voyez ? On peut pas, parce que sinon, bah, en fait, on ne fait qu'imposer à la Bible nos opinions personnelles. Bon, bah là, la Bible a tort parce que ça ne me convient pas. Voilà. Ça, c'est un peu court comme raisonnement. Et on ne peut pas vraiment s'en satisfaire. Alors, après ce littéralisme, disons, cette prise au sérieux du texte biblique, il y a un deuxième aspect méthodologique. C'est ce que Jacques Derrida va appeler le co-texte, ou ce qu'on appelle habituellement le contexte. C'est extrêmement important parce qu'on a vite fait de se faire avoir par la Bible et par ceux qui utilisent la Bible. Faire droit au co-texte et au contexte, c'est de dire que, et je reprends là une expression de Laurent Gagnebin, quand on extrait un verset biblique de son contexte, on fait un véritable massacre à la tronçonneuse. Et beaucoup de chrétiens, pourtant, ont l'habitude d'utiliser des versets bibliques comme s'il s'agissait de maximes universelles qu'on puisse utiliser indépendamment du contexte ou du cotexte dans lequel elle figure. Et ça, c'est quelque chose que l'humanisme nous a appris. C'est Erasme, dans sa préface au Nouveau Testament, qui écrit « Il ne suffit pas de prélever 4 ou 5 mots, il faut regarder d'où ils viennent, ce qu'ils disent, qui les dit et à qui, en quel moment, en quel terme, ce qui les précède et ce qui les suit. » Ça, c'est être honnête aussi par rapport au texte biblique. Parce que si, par exemple, vous lisez le livre de Job, et que les paroles des amis de Job, qui sont de faux amis, vous les extrayez du contexte, et vous dites c'est une parole de la Bible, du coup ça devient parole d'évangile, comme si c'était parole de Dieu. Alors qu'en fait c'est exactement le contraire. Donc vous voyez, c'est extrêmement problématique pour prendre un exemple très caricatural. Mais ce qui est important, c'est de prendre conscience que le sens d'un texte dépend de l'environnement dans lequel il est. Et le co-texte, c'est en fait le texte qui est autour du texte. Ce sont les passages ou les paroles qui entourent la phrase qu'on examine.
C'est l'explication.
C'est pas, oui, enfin, c'est l'ensemble. Disons qu'on peut imaginer que le texte est une argumentation, et une argumentation a besoin de tous ces éléments et de l'ordre dans lequel on place ces éléments. Couper un verset biblique où la négation est dans la phrase qui précède, eh bien, vous inversez complètement le sens de la phrase. Oui. Et donc, on peut, effectivement, en extrayant une phrase comme ça, en fausser la portée et le contenu, parce que c'est ce qui précède et ce qui suit qui, avec cette phrase, donne le sens. Et c'est un peu le risque si on se contente de prendre ce verset 12. « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ça, c'est un peu le problème de nos éditions modernes de la Bible, hein, depuis Robert Estienne qui a découpé en versets. C'est extrêmement commode pour se repérer dans les textes bibliques, mais du coup, ça donne l'impression que chaque verset a une sorte d'autonomie, une sorte d'existence propre. Voilà. Et puis le contexte, par opposition au co-texte, le contexte, c'est les circonstances dans lesquelles un texte a été écrit. Et le contexte est extrêmement important, parce que le contexte de communication en général permet d'éclairer le sens d'une parole. C'est-à-dire que vous ne vous exprimez pas de la même manière quand vous êtes en train de produire une sérénade pour l'être aimé, ou quand vous êtes en train de pourrir quelqu'un qui vous excède, pour le dire cruellement. Dans le bassin méditerranéen, quand on veut convaincre quelqu'un, on ne s'exprime pas de la même manière qu'en pays anglo-saxon. Dans le bassin méditerranéen, on a le sens de l'exagération pour convaincre, pour appuyer le sens que l'on veut soutenir. Les interlocuteurs britanniques vont avoir plutôt le sens de la litote, de l'understatement, comme on dit, pour se faire entendre. On m'a dit que quand un Italien parlait, ce qui était important, c'était de voir ce qu'il ne disait pas. Bien. Et donc, vous voyez, le contexte est important pour comprendre le sens d'un texte. Et ici, le contexte, c'est quoi ? Prenons le contexte, justement, de ce passage du livre des Actes des Apôtres. Comment qualifieriez-vous le contexte dans lequel ce verset apparaît ? Je vous assure, je me suis engagé à vous poser des questions simples. C'est simple. Le contexte, c'est... Oui, c'est un contexte d'opposition, c'est une polémique, c'est un acte d'accusation. Un peu comme Jésus au moment de son procès, hein, finalement. Donc on est dans une polémique. Donc on comprend que ça va être un acte de communication quand même assez spécifique. C'est pas qu'il va être question de mauvaise foi, mais certainement, on va caricaturer un peu les positions. On va un peu forcir les traits. Oui ? Bien. Ensuite, par rapport à ces versets sur la place du Christ dans la religion, mais surtout, je dirais, les textes qui parlent des autres religions. Parce qu'en fait, là, ce qui est sous-jacent, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres religions ? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas chrétiens ? Et on peut comme ça voir ce que la Bible dit dans son ensemble au sujet des autres religions, pour voir si effectivement ce passage est cohérent avec d'autres passages qui parleraient des religions. Après tout, si les autres passages bibliques disent qu'il faut disqualifier les autres religions, bon, ça sera quand même un argument pour dire ben, ce verset, il faut peut-être le comprendre effectivement comme en dehors du Christ, point de salut, point de vérité. Donc, il faut faire un peu une enquête dans les autres textes bibliques. C'est le principe réformé. L'Écriture interprète les Écritures. C'est-à-dire qu'on fait comme ça des enquêtes dans d'autres textes bibliques pour voir quelles sont les réponses qui sont apportées. Et alors, l'enquête mène à ceci. C'est qu'il y a d'une part des passages qui sont très ouverts à l'étranger, qui sont très ouverts à des croyants d'autres religions. On peut penser à Melchisédek, on peut penser à la rencontre avec la Samaritaine, la Syrophénicienne, on peut penser à ce qui est dit du centurion romain au pied de la croix, on peut penser aux mages, bien sûr, on peut penser à l'ânesse de Balaam, etc. Donc il y a quand même des passages bibliques qui sont très ouverts à d'autres religions. La reine de Saba, plutôt bien accueillie par Salomon. Bon, Salomon n'était pas non plus un modèle d'orthodoxie, mais bon. Et puis, il y a quand même aussi d'autres passages qui témoignent d'une franche hostilité à l'endroit des autres religions, avec des massacres à la clé, avec des polémiques contre les croyances des peuples environnants. Bien. Donc finalement, on a les deux. Alors comment on se débrouille avec ça ? Bon, bah, c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué. C'est-à-dire que ces données-là, aussi contradictoires soient-elles, il faut les exploiter, il faut les travailler et éviter de se dire « bon, bah, c'est insurmontable ». Alors, la première chose, c'est de voir que, une fois de plus, la Bible n'a pas un discours unilatéral, univoque, hein, qui a du pluralisme au sein de la Bible. Mais, le deuxième aspect des choses, c'est que les contradictions qu'il y a peuvent être plusieurs manières possibles de comprendre et de vivre la foi biblique. Ce que je veux dire, c'est que des contradictions n'impliquent pas forcément des exclusions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des textes peuvent dire des choses qui, a priori, semblent contradictoires, mais en fait, c'est parce que ces textes répondent à des questions différentes. Je prends toujours cet exemple qui est frappant au possible. Jésus envoie les disciples en mission. Dans un évangile, il leur dit « Surtout, ne mettez pas de sandales. » Dans l'autre, il leur dit « Surtout, mettez des sandales. » Ah, je veux dire, ça peut être un passage qui dit « Bon, bah, la Bible, c'est bon, poubelle, quoi. Ça sert à rien, c'est contradictoire. » Une enquête un peu fouillée permet de comprendre que dans un cas, c'est une manière pour l'évangéliste de dire que ce travail de mission va être long et qu'il convient donc de s'équiper parce que ça ne va pas se faire en 48 heures, la mission. Et puis, pour un autre évangéliste, ce qui importe, c'est d'insister sur le fait que la mission, c'est ce qui permet de rendre la terre sainte au sens de habitable en présence de Dieu. Et quand une terre est sainte, on ôte ses sandales. Deux phrases qui semblent contradictoires dans les termes, mais elles sont contradictoires parce qu'elles répondent à deux questions différentes. Comment exprimer le fait que la mission va être longue, d'une part ? Comment exprimer le fait que la mission, c'est ce qui rend le monde vivable ? Par rapport à notre problématique sur les autres religions, ce qui est intéressant, c'est de constater que, en général, lorsque les auteurs bibliques s'en prennent à d'autres religions, c'est qu'elles constituent une menace pour la foi d'Israël. C'est pas dans un rapport pacifié au départ. C'est que les autres religions participent d'une sorte d'univers hostile à Israël. Et donc, sur le plan théologique, on va s'en prendre à la religion de l'autre. Hein, quand on a un Baal qui est finalement le chef des armées adverses, ben on s'oppose au Baal. Mais quand on a la foi de cette Samaritaine ou de cette Syrophénicienne qui ne vient pas contre la foi du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de Jésus, eh bien, vous voyez à quel point les relations sont pacifiées finalement. Donc l'hostilité aux religions témoigne aussi d'une hostilité des religions à l'endroit d'Israël. Oui, François.
Je me posais justement la question des rapports entre Samarie et Juda et Jérusalem.
Oui.
Je viens de dire que c'était des rapports qui finalement étaient pacifiés. En fait...
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ces rencontres témoignaient d'une relation qui était pacifiée entre, par exemple, la femme et Jésus. Mais d'institution à institution, non, c'était la guerre.
Quelle était la foi de Samarie ? Enfin, on se posait vraiment la question par rapport à Jérusalem, par rapport à Juda.
Le problème, en l'occurrence, c'est le problème du pouvoir et de l'autorité. C'est qui est détenteur du lieu saint officiel ? Est-ce que c'est Samarie, donc le mont Garizim, ou est-ce que c'est Jérusalem, la colline de Sion ? Et si vous lisez ce qui en est dit dans le livre du Deutéronome, et si vous avez une édition un peu savante, vous verrez qu'il y a des notes qui vous disent que le texte samaritain dit l'inverse du texte hébreu. Parce que la question est de savoir quel est le lieu saint qui va devenir référent. Et en fait, c'est essentiellement ça la différence. Il n'y a pas... c'est le même Pentateuch. Hein, c'est le Pentateuque qui fait foi, et c'est le Pentateuque samaritain est une des versions du Pentateuque dans une autre langue. Mais avec, du coup, une tradition sacerdotale propre, avec un prêtre, un grand prêtre à Samarie, qui, du coup, est, j'allais dire, l'anti-prêtre, au sens anti-pape, de Jérusalem. Donc, c'est une hostilité de frères jumeaux. Voilà. Et donc, ils sont ennemis parce que c'est un conflit héréditaire, cette affaire. C'est quand il y a justement dans un peu le testament de Moïse, que faire quand on entrera en terre promise ? Eh bien, il y a des choses qui doivent se faire autour de Samarie. Et puis finalement, on se rend compte que Samarie risque d'être un lieu concurrent. Et je crois que dans l'histoire de la foi israélite, du coup, on rapatrie tous les hauts lieux sur Jérusalem. Il y a une concentration religieuse sur Jérusalem. C'est toute l'activité du Deutéronome, la réforme de Josias, centralisation du culte à Jérusalem. Et donc les autres lieux, certains disparaissent, et puis il y a Samarie qui se maintient. Parce que je crois qu'à Samarie, il y avait une tradition qui était aussi légitime qu'à Jérusalem. Et l'hypothèse, c'est qu'en fait, le véritable lieu, c'est Samarie. C'est là, primitivement, qui était le lieu, et pas à Jérusalem. Une sorte de... C'est finalement, dans le conflit, c'est Jérusalem qui l'emporte, mais peut-être pas pour des raisons théologiques, quoi. Dans l'enquête que l'on peut faire sur les religions étrangères, il y a le fait que, quand elles sont combattues, c'est qu'elle divinise une réalité terrestre. En fait, c'est qu'elles deviennent idolâtres hein, aussi. Elles ne sont pas simplement hostiles, elles peuvent être idolâtres. Et donc, la lutte contre l'idolâtrie passe aussi par la lutte contre les autres religions idolâtres. Donc, ce ne sont pas les religions elles-mêmes que la Bible combat, en fait, mais leur penchant et leur déviation idolâtre. Donc, le troisième aspect, c'est l'enquête que l'on peut faire par ailleurs. Donc, vous voyez, déjà, ça nuance le propos de ceux qui pourraient dire « Ah ben, ce verset est tout à fait confirmé par d'autres versets bibliques, par d'autres textes bibliques. » Non. En fait, on voit que la Bible a tendance à s'opposer aux autres religions, où elle est disqualifiée dans la mesure où elles sont idolâtries ou qu'elles sont une menace pour la foi d'Israël. Et une religion qui est une menace pour une autre religion, c'est effectivement quelque chose d'assez équivoque. Ensuite, la quatrième question que l'on peut se poser, c'est, André Gounel met ça sous forme d'une question, pour moi ou pour tous ? C'est-à-dire, quel est le statut du texte ? Quel est le statut du texte que je suis en train de lire ? Et c'est Rudolf Bultmann qui a le plus travaillé cette question, qui est un exégète du Nouveau Testament, qui est devenu un grand théologien, un peu l'ennemi juré de Karl Barth. Rudolf Bultmann qui dit, au fond, il y a deux formes de discours, et ces deux formes de discours ont deux statuts tout à fait distincts. Le premier, c'est le discours rationnel. C'est autrement dit le discours scientifique. C'est le discours qui tente d'exprimer quelque chose d'universel, de général, valable pour tous, objectif. C'est les lois de la physique, en quelque sorte. Valable pour tous, en tout temps et en tout lieu. C'est rationnel. Et ça ne m'implique pas. Moi, j'y suis pour rien dans ce discours. C'est parce que ça s'impose. Voilà, c'est un discours qui s'impose. Et puis, il y a aussi le discours existentiel. Et ça, c'est le discours qui ne prétend pas être neutre. C'est le discours qui ne prétend pas traduire une observation désintéressée, qui s'imposerait à tous. C'est un discours qui dit ma relation personnelle avec l'événement dont je suis en train de parler. C'est un discours qui m'implique personnellement, et qui d'ailleurs ne parle que de moi. Ça transpire de moi dans ce discours. C'est de l'ordre de la confession personnelle. Et du coup, ce discours, ce qu'il représente pour moi ne vaut pas forcément pour quelqu'un d'autre. Je prends un exemple. J'ai quelques amis marseillais. Si je vais avec eux à un match de football opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, on va voir exactement le même match. J'ai la forte conviction qu'à l'issue du match, nous ne parlerons pas de la même manière de ce que nous avons vu. Nous pourrons parler même dans des termes très, très, très opposés. Ça, c'est pour caricaturer. Maintenant, mettez 3 ou 4 personnes côte à côte qui voient un accident de la route, eh bien, elles vont raconter de façon différente aussi. Parce qu'elles vont, s'impliquer, elles vont dire leur ressenti, elles vont interpréter, elles vont dire, elles vont même vouloir finalement faire justice. Et souvent, quand on raconte un événement, on veut faire justice. Et quand on fait un constat amiable, c'est quand même dur d'être très objectif et d'être très neutre, parce qu'on n'a quand même pas trop envie que notre prime d'assurance s'envole. Donc on a tendance à quand même insister plutôt sur les aspects qui, pour nous, sont avantageux. Bon, quand on va voir un accident et qu'on voit que manifestement il y a un conducteur qui a commis une faute grave contre un piéton ou je ne sais quoi, une tentation, c'est d'accabler le conducteur pour que le piéton soit encore plus victime et donc ait encore plus justice. Voilà, on se met du côté de la victime et donc on va accabler un peu, beaucoup, le coupable. Ben ça, c'est tout à fait existentiel, subjectif. Et ceci pour dire que c'est un critère que l'on devrait aussi appliquer au texte biblique. Quand on dit « Jésus est seul sauveur », est-ce que c'est un discours rationnel ou est-ce que c'est un discours existentiel ? Est-ce qu'il est seul sauveur pour tous ou est-ce qu'il est seul sauveur pour moi ? Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pierre et moi, dit Jean, ou nous tous, humanité entière ? C'est une question que je laisse en suspens. Mais quand Pierre parle, il me semble quand même qu'il parle pour ce qui concerne son groupe. Quand Jésus parle à ses disciples, il dit ce qui les concerne exclusivement. Et ça ne concerne pas forcément l'ensemble de l'humanité. Vous, mes chers disciples, vous qui avez vécu ces 3 années avec moi, vous qui m'avez entendu, vu, etc., eh bien, votre chemin de salut, voilà, je l'ai tracé avec vous. Et maintenant, ce chemin-là, vous pouvez le suivre. C'est le chemin. C'est aussi une vérité pour vous. C'est votre vérité. Et c'est ce qui vous mènera à la vie. Mais peut-être que pour quelqu'un d'un autre lieu et d'une autre époque, ça ne voudra pas de la même manière. Le cinquième point, et ça c'est un point qui est utile pour tous les textes bibliques, et je vous fais un petit peu le savant, mais c'est parce que je sais que vous aimez les lettres, c'est de distinguer entre l'Evangelium, je savais que le latin vous plairait, l'Evangelium Christi et l'Evangelium de Christo. C'est-à-dire distinguer la parole de Jésus de la parole sur Jésus. Ceux qui écrivent les évangiles ne se sont pas privés de remodeler et de reformuler à leur manière les paroles de Jésus. Et on voit bien, il y a des paroles contradictoires. Parce que c'est pas qu'il voulait fomenter un complot, ce n'est pas qu'il voulait nous induire en erreur, c'est qu'il voulait appuyer leur thèse, qu'il semblait être la thèse de Jésus. Mais pour une communauté particulière, pour un espace culturel particulier. On ne prêche pas de la même manière aux paroissiens de l'oratoire qu'à des paroissiens qui sont en Corse. C'est un autre univers culturel, et donc il faut en tenir compte. Et donc, il y a certainement une différence entre la parole de Jésus et la parole que les autres ont eue sur Jésus. Voilà, ça, c'est quand même à distinguer. Pardon ?
C'est un subjectivisme.
Oui, c'est vrai. Mais par exemple, une différence que Michel Boutier relève entre ce que fut la prédication de Jésus et ce que fut la prédication de ses disciples. Michel Boutier dit « Jésus enseigne que Dieu aime, accueille, sauve et renouvelle sans condition. L'être humain qui se tourne vers lui a directement accès, sans passer par sacrifice, rite ou dogme. Hein ? Jésus, il fait un lien direct entre les hommes et Dieu, le Père céleste, pour reprendre la métaphore. Les apôtres, eux, ont tendance à faire de Jésus la condition d'accès à Dieu. Et ils bâtissent un système où les doctrines, le baptême, la scène, prennent la place de ce qui était autrefois les rituels juifs. Une sorte de transposition. On modifie l'arrière-plan religieux pour le christianiser. Mais, dans une certaine mesure, il y a une infidélité à ce que Dieu a proclamé. Enfin, une infidélité, au sens où on a rajouté des choses. On a rajouté la tradition, quoi, tout simplement. Ce qui en soi peut être une aide précieuse, ça peut être une pédagogie, mais ce qui crée une différence, quand même, de fond. Et, ici, c'est manifestement pas Jésus qui parle, ça c'est très clair, mais on peut aussi entendre qu'il y a finalement un ajout de la part des apôtres qui vont vouloir faire de Jésus la pierre angulaire de leur foi, pour reprendre le psaume 118, ce que Jésus n'a pas fait de façon aussi significative. Jésus avait plutôt eu tendance à détruire tous les édifices religieux pour qu'il n'ait la relation directe. Et eux, ben, ils rebâtissent un peu, mais en utilisant la pierre Jésus comme pierre angulaire. Bien. Le sixième aspect, la sixième étape pour notre enquête par rapport à cet aspect christologique, c'est de revenir un peu sur Jésus-Christ, finalement. On a commencé par là en parlant du nom, Jésus, Dieu sauve. Maintenant, il faut quand même essayer de redire un peu des choses sur l'expression Jésus-Christ. Parce qu'elle est source de beaucoup de malentendus, parce qu'elle est utilisée tellement à outrance, sans qu'on n'y pense plus, que des fois c'est encore pire que notre Père. Jésus, donc, c'est un nom propre. C'est le nom qui a été donné au fils de Joseph et Marie. Donc c'est une personne. Jésus de Nazareth, c'est une personne. Christ, en revanche, c'est une qualité, c'est une fonction. C'est à la fois un événement, c'est Dieu qui intervient pour transformer la vie des hommes. Et puis, le Christ, c'est toujours quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de spirituel, d'immatériel. Le Christ, c'est toujours quelqu'un. Et c'est l'être que je qualifierais de véritablement humain, tel que Dieu le veut et tel qu'il le suscite par son action. Une sorte d'archétype humain, le Christ. Je ne sais pas si Nietzsche aurait dit cela, mais peut-être. Et la question, c'est quelle est la relation entre Jésus et Christ ? Voilà. Et c'est là qu'il va y avoir la résolution finale de notre problème depuis tout à l'heure. Une résolution qui ne va pas en être une, parce qu'on va voir qu'il y a des positions irréconciliables. D'abord, en vertu de cette typologie que je vous ai dressée, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a des oppositions qui sont manifestes. Mais même au sein du protestantisme, il y a deux grandes réponses à cette question qui font que ça pourrait presque faire obstacle à l'unité entre luthériens et réformés. Vous pourrez interroger les luthériens à ce sujet à l'occasion. Bon, vous ne les interrogerez pas. La première réponse à la relation entre Jésus et le Christ, je vous dis ça parce que c'est déterminant pour la compréhension de ce verset. La première réponse, c'est la réponse luthérienne. Le terme technique, c'est intra-luteranum. Si un jour un pasteur luthérien vous parle de la réponse intra-luteranum, ça veut dire ce que je vais vous expliquer. Ça veut dire que le Christ est totalement et uniquement en Jésus. On peut dire indifféremment Christ ou Jésus, et on peut même utiliser Christ comme nom propre. Et ça veut dire qu'en dehors de Jésus de Nazareth, en dehors de Jésus de Nazareth, Dieu est soit absent, soit invisible. Il ne rencontre et ne sauve les hommes nulle part ailleurs. Vous voyez, c'est du christocentrisme exclusif, ça. Luther, la position luthérienne, disons. Donc, c'est un exclusivisme chrétien qui refuse que Dieu se révèle autrement. Et donc, voilà, ça répond à l'une de nos questions. C'est une interprétation de ce passage biblique. Bon. Il y a la position réformée, qui, elle, s'intitule extra-calvinisticum. C'est extra, ça. Calvinisticum. Voilà, Calvin et Luther. Et la position réformée, c'est de dire que Jésus est bien totus Christus. Voilà, il est totalement Christ, mais il n'est pas totum Christi. Jésus est bien totalement Christ, mais il n'est pas la totalité du Christ. Il n'est pas la totalité du Christ. Il n'est pas totum Christi. Il n'est pas la totalité du Christ. C'est assez original à l'époque. Et ça signifie, et ça a une conséquence très importante, c'est que Dieu ne se confine pas en un seul lieu. Que même si Jésus est le Christ, totalement, pleinement, parfaitement, par excellence, ça signifie qu'il peut aussi y avoir du christique en dehors de lui. En nous, parfois, des fois, un peu, beaucoup. Et donc, aussi en d'autres religions.
Oui. Par rapport à cette expression, je ne sais pas quand est-ce que cette opposition est apparue, si c'est dès le début.
C'est-à-dire que c'est une opposition qui n'est pas frontale, elle se fait indépendamment que les deux le veuillent.
C'est pas vraiment une expression.
une complète l'autre. Enfin, il y a une rajoute quelque chose de plus à l'autre, non?
Ah non, non. Parce que, justement, la réponse luthérienne, c'est de dire qu'il n'y a pas de Christ en dehors de Jésus. Donc, Jésus est la totalité du Christ.
Les calvinistes,
les calvinistes ne
disent pas ça non plus ?
Non.
Il y a pas...
Non, enfin, oui, il y en a qui le disent. Il y a du christocentrisme exclusif chez des calvinistes parce que on peut pas être plus calvin, pas plus calviniste que Calvin, mais certains le sont. Enfin, on est quand même dans une église où il y a de la pluralité théologique. Donc, tout le monde ne pense pas de la même manière, ce qui est assez heureux parfois. Mais il y a une partie de la réforme radicale qui refuse le dialogue interreligieux parce que, justement, leur compréhension de la christologie fait que les autres religions sont disqualifiées. Parce qu'elles considèrent qu'effectivement, on ne peut pas être chrétien si on n'est pas dans un christocentrisme exclusif.
Alors le totus, le Christus, se rapproche beaucoup, si ce n'est la même chose que ce qu'on pense les catholiques.
Mais tous les chrétiens sont pour le totus Christus, c'est-à-dire que Jésus est totalement Christ.
Oui. Donc, les catholiques rajoutent quelque chose de plus.
Ils le font une nuance. Ils font une nuance. Là où, une partie du christianisme va considérer qu'il ne peut plus y avoir de Christ en dehors de Jésus de Nazareth, Christ, eh bien, beaucoup de protestants, réformés en particulier, professent que Jésus de Nazareth n'est pas l'expérience limite au Christ. Que Dieu peut agir et transformer les vies encore aujourd'hui, indépendamment de la question Jésus de Nazareth. Ce qui signifie par exemple que quand en régime réformé, on dit au nom de Jésus de Nazareth, ou au nom de Jésus, on ne dit pas au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, nous te le demandons au nom de Jésus. Pour certains, eh bien en fait, c'est comme si Jésus allait intercéder pour nous. C'est comme si c'était finalement la clé qui déverrouille la porte, qui donne accès à Dieu. C'est le sésame en fait. Dans une autre perspective, au nom de Jésus, c'est dans cette dynamique que Jésus a initiée. C'est nous aussi, en étant témoins de ce Dieu qui sauve, en étant coacteurs avec Dieu du salut offert à tous. Au nom d'eux, au nom de tous les miens, c'est soit une légitimation, grosso modo on monte le sauve-conduit et ça nous ouvre les portes, soit c'est voilà le projet dans lequel je m'inscris. Et ça, c'est la perspective réformée.
Ben, c'est la première fois que je découvre exprimé comme ça. J'avais jamais eu. C'est de la théologie, ça, pour sûr.
Non, je crois pas. Enfin, je sais pas, mais.
Le problème s'était posé comme ça.
Ah oui. Et c'est pour ça que je. Mais j'ai évité de commencer en disant qu'aujourd'hui, en parlant de la christologie, c'était l'occasion ou jamais de se mettre un peu sur la figure, parce qu'en général, c'est extrêmement sensible. Parce que en régime protestant, l'expérience personnelle est tellement forte qu'elle est en général, enfin l'expérience personnelle religieuse est tellement forte qu'elle est en général toujours articulée autour de la question du Christ ou de Jésus. Et que dès qu'on touche à cette figure-là, du coup, on touche à l'expérience personnelle des croyants. Et du coup, dès qu'on dit quelque chose qui va un petit peu à côté de ce qui est ressenti ou vécu, on a l'impression que c'est la foi de la personne que l'on remet en cause. Donc je n'ai pas commencé par cette mise en garde, sinon vous seriez arc-bouté. Donc pédagogiquement, je n'ai rien dit. J'ai laissé tranquille. Et ça a permis d'avoir une sorte de consensus, ou en tout cas un silence religieux autour de ces questions-là. Mais... rencontrer d'autres croyants et parler un peu du Christ, et vous verrez qu'en fait, ils en parlent souvent d'une façon différente de la vôtre. Et sur la question du dialogue interreligieux, les choses sont frappantes. Parce que c'est à partir de là que c'est sur cette question du Christ que la question du dialogue interreligieux a été construite ou a été démolie depuis les années 60. Bah parce que si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ceux qui ne suivent pas ce chemin-là, ils sont en dehors de la vérité et de la vie. En vertu d'un christocentrisme exclusif. Quand les théologiens comme John Hick, justement, celui dont je vous ai parlé au départ et que je vous reparle maintenant, quand il dit « On peut aussi considérer que le christocentrisme ne se réduit pas à un jésuscentrisme », eh bien, ça permet à chaque religion de pouvoir se penser comme unique parmi d'autres religions également uniques. Je veux dire par là que la théologie du process l'a aussi pas mal développée. La théologie du process a autorisé le dialogue interreligieux, John Cobb notamment, en disant, en comprenant cette phrase de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », comme celui qui produit du chemin de la vérité et de la vie. Comme celui qui, du coup, rend possible le chemin vers les autres aussi. Parce que si Christ est seul sauveur ou seule assurance de la vérité, on peut du coup se dire, eh bien les autres ne sont même pas en jeu. On n'a rien à faire avec eux. On ne peut que les ignorer quand on ne les méprise pas cordialement. Ici, avec cette compréhension, soit d'un théocentrisme, soit d'un refus d'un jésuscentrisme, on peut se dire... Dieu peut aussi se manifester dans d'autres religions. Dieu peut aussi agir au sein d'autres religions parce que ces textes bibliques n'ont pas un caractère exclusif, qu'ils ne délimitent pas la présence de Dieu dans cette seule figure de Jésus. Mais dans le cadre de la polémique entre les apôtres et le Sanhédrin, entre les apôtres et les Sadducéens, eh bien, il y a la première polémique, c'est « Mais enfin, vous allez quand même le reconnaître comme Christ, ce Jésus de Nazareth, qui fut notre maître. » Donc la première polémique, c'est la reconnaissance de Jésus en tant que Messie. Donc on est obligé d'en remettre une couche, on est obligé de réinsister. Et on va, en quelque sorte, caricaturer, parce qu'on est dans une polémique, on va appuyer sur le trait, peut-être outrageusement et plus que nécessaire, en disant « Voilà la foi de notre groupe. » Et comme Martin Luther, dans son opposition à l'Église de Rome, disait « ma conscience est captive et je ne puis ni par mon vouloir ni par mon savoir changer de point de vue », eh bien c'est ce que disent Pierre et Jean, je ne puis ni ne veux me rétracter en aucune manière, pour moi il n'y a pas d'autre sauveur que cet homme que je confesse, que vous avez crucifié mais qui a été ressuscité par Dieu, ce qui montre bien qu'il était témoin du fait que Dieu sauve. Donc c'est une profession de foi personnel, qui peut avoir un caractère plus universel que le simple groupe historique des apôtres de Jésus, mais qui n'est pas exclusif d'une manifestation authentique de Dieu, dans mon point de vue, et de beaucoup d'amis libéraux.
Écoute, la façon dont j'ai compris ce que tu as dit, j'ai l'impression que tu fais de moi aujourd'hui un luthérien.
Vaut mieux être luthérien que mes crayons.
Bah
c'est vrai, c'est pas très grave.
Parce qu'à la fois là, c'est la guerre des religions.
Mais par exemple, prenons un autre exemple très concret. La question se pose pour les prédicateurs, est-ce qu'on peut prêcher sur l'Ancien Testament sans parler de Jésus? Bon, moi c'est mon point de vue. Je pense qu'on peut prêcher sur l'Ancien Testament sans forcément tout ramener à Jésus. Parce que mon point de vue est plutôt théocentrique. Mais d'autres prédicateurs, déjà, vont plutôt éviter de prêcher sur l'Ancien Testament. Et puis, s'ils prêchent sur l'Ancien Testament, de toute façon, ils ramèneront ça à Jésus. Autant moi, je peux voir volontiers une action christique dans bien des textes de l'Ancien Testament, au sens de Dieu qui agit, qui intervient, qui interagit. Autant tout passer par la moulinette Jésus, ça, c'est quelque chose qui... correspond pas à ma vision des choses, disons. Mais ce n'est que ma vision des choses, pour le coup.
C'est pour ça que beaucoup de protestants se sentent une sympathie plus qu'une sympathie pour le bouddhisme.
Bah, disons que c'est encore autre chose, hein, parce que dans le bouddhisme, il y a des aspects intéressants, d'autres qui sont en contradiction. Oui, c'est ça.
Il est né 500 ans avant Jésus.
Il est dans un climat de la religion bouddhiste et disant, je le sais puisque j'ai vécu, mais quand quelqu'un meurt, on se demande ce qu'est la personne, puisqu'on pense qu'elle peut redevenir végétal, animal. Mm-hmm. Ici, on a quand même l'impression qu'on est une personne qui a un commencement et une fin, et qui a un bilan à la fin ou quelque chose.
Alors ça, le bilan, on verra ça la fois prochaine avec la question du jugement éternel. En l'état actuel des choses, je parlerai plutôt que du fait que nous sommes des personnes qui avons un commencement et une perspective. Et une perspective. Pour la fin, je ne saurais me prononcer. Quand, pour ce qui est du bilan, nous en parlerons la fois prochaine avec la fin de l'évangile selon Matthieu.
La métempsychose, c'est quand même quelque chose qui est difficilement partageable quand on est entré dans cette culture.
Mais ce qui est difficilement partageable, ce qui est difficilement communicable, mérite d'être d'autant plus critiqué du coup. Parce que ce dont on ne peut pas en rendre compte mérite le soupçon au sens philosophique du terme quand même, hein. Encore plus que toute autre expérience.
J'ai dit oui, non.
D'accord.
Quand je suis arrivée au Cambodge, par exemple, j'ai commencé à mettre des insecticides dans les grandes jarres d'eau qui doivent prendre l'eau pour arroser les jardins. Et j'avais une petite belle-mère, très frêle et tout ça, qui a renversé toutes les jarres pour permettre aux larves de moustiques de vivre. Mais ça n'a pas empêché les Khmers rouges de tuer. J'ai vécu les deux. Enfin, les Khmers rouges étaient avec eux.
Oui, d'accord. Mais là, c'est encore tout à fait autre chose, ça, oui.
Ils ont été élevés dans le bouddhisme.
Oui, mais là, oui, mais le christianisme est aussi capable d'horreur, rassurez-vous. Voilà, je reste à votre disposition pour accompagner votre âme réformée ou luthérienne. Et puis la fois prochaine, nous nous retrouvons pour la question du jugement dit dernier dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Voilà.